Vous écoutez On lit pour vous.
Des nanoplastiques coriaces, un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 janvier 2024 dans la presse. Une proportion élevée des nanoplastiques présents dans les eaux usées n'est pas interceptée par les usines d'épuration québécoises, selon une nouvelle étude. Dans certaines usines, plus de 80 % de ces molécules toxiques survivent parfois au traitement. Bonne nouvelle, des changements peu coûteux peuvent en éliminer plus de 70 % et il serait possible d'augmenter cette proportion avec des investissements supplémentaires. Matière en suspension. Les nanoplastiques sont en partie éradiqués par les procédés d'élimination des matières en suspension, a constaté l'étude de Mathieu Lapointe, ingénieur civil de l'École de technologie supérieure, ETS, qui est l'un des co-auteurs de l'étude publiée lundi dans la revue Nature Water. Il avait commencé l'étude durant son post-doctorat à l'Université McGill et les analyses de laboratoire y ont été faites. En moyenne, dans les usines québécoises de traitement des eaux usées, les technologies existantes permettent l'enlèvement de 39 % à 69 % des nanoplastiques, dit M. Lapointe. Or, dans deux usines où des mesures directes ont été prises, le taux d'enlèvement des nanoplastiques baissait parfois à moins de 20 %. M. Lapointe ne peut pas dévoiler l'emplacement de ces deux usines à cause d'ententes de confidentialité. Il n'y a pas pour le moment de normes sur l'enlèvement des nanoplastiques. L'ABC des nanoplastiques. Comme leur nom l'indique, les nanoplastiques sont de l'ordre du nanomètre, donc 1000 fois plus petits que les microplastiques. Les microplastiques ne peuvent pas entrer dans les organes du corps humain, ils sont trop gros, dit M. Lapointe. Si on en mange, ils vont entrer et sortir. Mais les nanoplastiques sont assez petits. Les études tendent à démontrer qu'ils ont plus de toxicité que les microplastiques. Ce n'est pas une énorme toxicité, beaucoup moins que les perfluorés, par exemple. Mais les nanoplastiques peuvent s'accumuler dans le corps. Corrélation. La clé pour l'amélioration rapide de l'enlèvement des nanoplastiques est la mesure de la corrélation entre l'enlèvement des matières en suspension et des nanoplastiques. Nous avons pu voir en laboratoire que c'est assez constant pour un traitement donné, dit M. Lapointe. Donc, on pourrait utiliser cette corrélation pour savoir combien de matières en suspension enlevées. On pourrait aussi ajouter des coagulants. Il arrive parfois que les matières en suspension coagulent naturellement dans les eaux usées. Elles décantent très facilement dans le décanteur, dit M. Lapointe. Mais les nanoplastiques ne s'agrègent pas naturellement. Si on vise seulement à respecter les normes pour les matières en suspension, parfois, il va rester plus de nanoplastiques. En utilisant les méthodes actuelles, on peut donc éliminer facilement, en n'augmentant pas beaucoup les coûts, plus de 60 % des nanoplastiques. Coagulants et flocculants. Comment faire pour éliminer davantage de nanoplastiques? Pour dépasser 90 % d'enlèvement, il faudrait plusieurs conditions gagnantes, dont certaines sont coûteuses, parfois très coûteuses, dit M. Lapointe. Il pourrait y avoir, par exemple, davantage de coagulants et de flocculants, des molécules qui favorisent la décantation des agglomérats de particules, ou alors des versions haute performance de ces coagulants et flocculants. Le pH pourrait être ajusté pour favoriser l'agglomération des nanoplastiques. Les solutions probablement trop coûteuses pour être adoptées du moins pour les usines existantes, sont la réduction des débits ou l'augmentation de la taille des décanteurs pour laisser plus de temps de décantation aux nanoplastiques. L'eau potable. Les collègues de l'ETS et de McGill de M. Lapointe sont maintenant en train de faire le même exercice pour les usines de traitement de l'eau potable. Mais ils pensent que l'enlèvement des nanoplastiques sera supérieur à celui des usines d'épuration parce que ces dernières n'utilisent pas de filtres granulaires ou membranaires comme dans l'eau des conduites d'eau. Dans une usine d'eau potable, on enlève presque tout, dit M. Lapointe. Il se pourrait par contre qu'avec les sources d'eau très propres, comme le fleuve Saint-Laurent, on utilise moins de coagulants. En l'absence de coagulants, les nanoplastiques passent un peu plus à travers les filtres granulaires. Les sacs de plastique. Est-ce que l'interdiction des sacs de plastique à Montréal a déjà eu un impact sur la quantité de microplastiques et de nanoplastiques dans les eaux usées? On ne verra pas d'impact parce que la plupart des micro- et nanoplastiques des eaux usées proviennent du lavage des vêtements, dit M. Lapointe. Dans le passé, il y avait aussi des microplastiques dans les produits de soins personnels, mais c'est moins le cas. Il y a aussi un peu de microplastiques provenant des lave-vaisselles quand on lave des contenants de plastique, par exemple. N'y avait-il pas une contamination par les sacs de plastique abandonnés dans la rue ou qui se retrouvaient dans les dépotoirs? Il n'y en avait pas assez qui ne prenaient pas le chemin du dépotoir. Et les eaux de lixivia des dépotoirs passent à travers les sols qui sont d'excellents médiafiltres. Donc, les microplastiques provenant des dépotoirs, ce n'est pas inquiétant pour nous. En savoir plus, source Environnement Canada, 4,7 millions de tonnes, quantité de plastique vendue au Canada en 2016. 3 millions de tonnes, quantité de plastique enfoui ou brûlé dans des dépotoirs au Canada en 2016. 300 000 tonnes, quantité de plastique recyclé au Canada en 2016. 29 000 tonnes, quantité de plastique relâché dans l'environnement à l'extérieur des dépotoirs au Canada en 2016. C'était « Des nanoplastiques coriaces », un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 janvier 2024 dans la presse.
Jeune dans sa tête. Un texte de Enrique Alpanes, paru en février 2024 dans la sélection du Reader's Digest. Pourquoi ce sentiment d'être plus jeune que nous ne le sommes en réalité? Elle a 66 ans, mais elle a le sentiment d'en avoir 40. Cette femme que j'appellerai Anna n'était pas consciente de cet écart avant de recevoir un vaccin contre la COVID-19 il y a quelques années. En faisant la file, entourée de ses contemporains, elle s'est demandé en les regardant s'ils avaient vraiment son âge. Amusée et un peu inquiète, elle en a discuté avec des amis. Presque toutes ont fait état d'une expérience similaire. Suivant une étude danoise publiée en 2006 dans Psychonomic Bulletin and Review, les personnes de plus de 40 ans se perçoivent en moyenne 20 % plus jeunes que leur âge. Ce sentiment subjectif commence à 25 ans. Avant, on a généralement tendance à se sentir plus âgé qu'on ne l'est. D'où vient ce sentiment? Psychologues et scientifiques s'intéressent au phénomène depuis les années 1970. Certains invoquent les facteurs culturels qui encouragent à avoir l'air plus jeune. En 1989, une étude menée par l'American Psychological Association est arrivée à cette conclusion. les identités de l'âge subjectif sont une forme de déni défensif qui permet à l'adulte de se dissocier des stigmates du vieillissement. Belen Alfonso, 35 ans, mais le sentiment d'en avoir 30, est d'accord. Nous intégrons les stéréotypes négatifs sur la vieillesse, ce qui nous pousse à résister à la réalité de notre propre vieillissement, dit la psychologue spécialiste en études de genre. Cible de toutes ces publicités qui associent l'activité à la séduction et à la jeunesse, les femmes sont particulièrement touchées par ces comportements âgistes. La vieillesse est associée à l'absence de productivité, à la maladie et à la dépendance. Plutôt que de reprocher à une personne d'âge mûr de se percevoir ou de se présenter aux autres comme plus jeune, il vaudrait mieux chercher à comprendre le contexte social qui l'y encourage. Avoir un âge subjectif de 25 ans, quand on en a 65, par exemple, suggère que l'on se perçoit comme une personne énergique, forte et séduisante, explique Belen Alfonso. Mais pourquoi ne pas associer ces qualités au fait d'avoir 65 ans? Prenez la chanteuse Madonna. Elle a 65 ans et il y a longtemps qu'on lui reproche sa façon de se présenter. Une femme sûre d'elle et de sa sexualité. Entourée de gens qui pourraient être ses enfants, Madonna twerks, fume du cannabis, montre fièrement ses vibromasseurs et adhère aux tendances virales sur TikTok. À en juger par les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est un gros problème pour de nombreuses personnes. Une femme de plus de 60 ans doit se couvrir et éviter d'attirer l'attention. Ceux qui se perçoivent plus jeunes ont en général une meilleure santé et sont plus heureux. Dans une déclaration publiée plus tôt cette année sur Instagram, la chanteuse a répondu à ses détracteurs « Me voici une fois de plus sous les feux de l'âgisme et de la misogynie qui imprègne le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui refuse de célébrer les femmes de plus de 45 ans et qui éprouve le besoin de les punir si elles persistent à être déterminées, travailleuses et aventureuses. Je ne me suis jamais excusée pour mes choix artistiques, physiques ou vestimentaires, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. » Pour Belen Alfonso, Madonna montre que l'activité physique, l'érotisme et les réseaux sociaux ne sont pas réservés à une seule classe d'âge. Sauf que, dans l'industrie de la musique, les divas de la pop doivent être jeunes. Pour entrer dans le moule, celles qui sont plus âgées se sentent obligées de recourir à la chirurgie esthétique ou à Photoshop. L'âge n'a pas non plus freiné Paddy Jones du Royaume-Uni. Sa place a toujours été sur la piste de danse, et dans le livre Guinness des records, elle occupe celle de la plus vieille danseuse acrobatique de salsa au monde. Octogénaire, elle danse la salsa avec une agilité et une intrépidité qui font l'envie de nombreux quadragénaires. Je n'évoque pas mon âge parce que je ne me sens pas ni ne me comporte comme une octogénaire, a-t-elle affirmé lors d'une entrevue. Ses vidéos ont cumulé des millions de vues. Plus jeune, Paddy a renoncé à la danse pour se consacrer à sa famille. Sa notoriété est venue plus tard, en 2009, avec sa participation, à 75 ans, au concours de l'émission de la télé espagnole « Tú sí que vales »,« Tu le mérites », avec Nico Espinosa, qui en a 40 de moins. Le duo l'a remporté. Son histoire est devenue virale et Paddy a dansé dans de nombreuses émissions au Royaume-Uni. Avec Nico, elle a atteint les finales de Britain's Got Talent en Allemagne, au Chili et en Italie. Elle a participé à des concours jusqu'en 2021, notamment pour Spain's Got Talent avec Nico, où ils ont bouclé le premier round. Aujourd'hui, à 88 ans, elle a arrêté la compétition. L'âge subjectif améliore la qualité de vie, mais l'âge chronologique finit toujours par vous rattraper. On ne peut pas changer son âge, mais le mode de vie et le comportement influent sur l'âge subjectif, confirme Bruno Arpino, sociologue à l'Université de Padoue, en Italie, qui coordonne une étude européenne sur la qualité de vie des aînés. À 43 ans, il préfère ne pas révéler son âge subjectif. C'est mon sujet d'étude et la réponse serait forcément biaisée. C'est positif pour ceux qui se perçoivent plus jeunes qu'ils ne le sont en réalité, confirme-t-il. Ils sont généralement en meilleure santé et plus heureux, reconnaît le sociologue. Et ils vivent plus longtemps. Mais on ne sait toujours pas si ces aspects positifs sont la cause ou l'effet. Le phénomène s'observe surtout chez les personnes actives pour leur âge, souligne-t-il. Avoir des loisirs ou entretenir des relations intergénérationnelles sont autant de facteurs qui nourrissent le sentiment d'être plus jeune. Les études et les théories ramènent toutes à une idée simple. À l'âge adulte, il est difficile de trouver sa place. On a beau se sentir mieux conservé que les autres aux réunions d'anciens camarades de secondaire, ça reste une illusion. Retenez toutefois que se percevoir plus jeune a des effets positifs sur la santé physique et mentale. Alors, soyez rebelle comme Madonna ou dansez comme Paddy Jones, éternellement jeune jusqu'à la fin. C'était « Jeune dans sa tête », un texte de Enrique Alpanes, paru en février 2024 dans le Sélection du Reader's Digest.
L'Assemblée nationale rend hommage à Viviane Labrie, pionnière de la lutte contre la pauvreté. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 13 décembre 2023 dans Le Devoir. L'Assemblée nationale honore mercredi une grande humaniste québécoise. Infatigable, indignée de l'injustice sociale, Viviane Labrie refuse depuis plus de 35 ans les règles du jeu économique qui tolère la misère crasse des uns et l'enrichissement débridé des autres. Portrait d'une femme qui continue de rêver à l'avènement d'un monde où plus personne ne restera à quai quand passera le train de la prospérité. À 70 ans, dont plus de la moitié a lutté contre les inégalités, Viviane Labrie dégage la sérénité de celle qui a vécu en accord avec ses valeurs. Elle a marché chaussée de bienveillance et de compassion, engagée dans des luttes citoyennes aux côtés des moins nantis, dont elle admire encore et toujours la noblesse. Chercheuse, conteuse et surtout grande amoureuse du genre humain, celle qui aime se décrire comme une femme de conte, C-O-N-T-E-S, et de conte, C-O-M-P-T-E-S, s'émerveille encore dans le Café Saint-Roch, où Le Devoir la rencontre, au souvenir d'une femme sans éducation et incapable de lire et d'écrire, dont elle a oublié le nom, mais capable de fredonner de mémoire 500 chansons. Les gens comme elle portent notre trésor collectif, lance avec enthousiasme Viviane Labrie. Nous les appelons les déshérités parce que tout le monde a droit à une place comme du monde dans le monde et que la leur n'est pas là. Elle est encore à faire. Pourtant, ils transportent des répertoires de contes et de chansons qui forment une véritable sagesse populaire, transmise de génération en génération. C'est tout un héritage, ça. Une charte pour un Québec sans pauvreté. Aujourd'hui, c'est toutefois le sien que le député solidaire Étienne Grandmont veut souligner en lui accordant une médaille de l'Assemblée nationale. Viviane Labrie, née à Sherbrooke, mais enracinée dans la basse ville de la capitale, a joué, à titre de coordonnatrice du collectif « Pour un Québec sans pauvreté », un rôle central dans l'élaboration d'une première loi contre les inégalités. L'adoption de cette loi a donné au gouvernement l'obligation de travailler sur cet enjeu-là, explique le député de Taschereau. Honorée Viviane Labrie, aujourd'hui, remet à l'avant-plan les bonnes mesures prévues dans la loi qui doivent encore être mises en place pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale que nous voyons ressurgir 21 ans après son adoption. La loi cadre, née dans la foulée d'un Parlement de la rue organisé au parc de l'Esplanade de Québec à l'automne 1997, devait servir de charte pour orienter l'action du gouvernement vers une société plus juste. Son ambition? Éliminer la pauvreté dans un horizon de 10 ans. Soumise une première fois au Salon Bleu le 22 novembre 2000, accompagnée d'une pétition forte de plus de 217 000 signatures, la proposition du collectif pour un Québec sans pauvreté inquiétait le gouvernement en place qui la jugeait trop contraignante. Il y a dans cette loi une disposition qui porte l'augmentation du salaire minimum de 7 à 8,50 l'heure, s'alarmait le premier ministre de l'époque, Lucien Bouchard. À première vue, il y a des choses qui me font peur, renchérissait le ministre de la Solidarité sociale, André Boisclair. Je ne suis pas prêt, ellipse, à donner un chèque en blanc sur ce qui est là. 2 ans plus tard, le 13 décembre 2002, 104 parlementaires adoptaient néanmoins à l'unanimité la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, une version édulcorée de la loi cadre écrite par la société civile. Karl Marx avait raison aussi, affirmait alors le premier ministre Bernard Landry. On ne crée pas la richesse pour enrichir des oligarchies. On ne crée pas la richesse pour procurer un confort bien au-delà de la moyenne à une toute petite partie de la population. On crée la richesse pour la répartir. Vous écoutez, l'Assemblée nationale rend hommage à Viviane Labrie, pionnière de la lutte contre la pauvreté, un texte de Sébastien Tanguay, paru le 13 décembre 2023 dans Le Devoir. Parole, parole. 21 ans jour pour jour après son adoption, Viviane Labrie constate quelques avancées, mais aussi plusieurs ratés. La loi cadre reposait sur 3 principes. D'abord, faire de la lutte contre les inégalités une priorité. Ensuite, inclure les gens qui vivent la pauvreté dans le processus qui les concerne. Finalement, améliorer les revenus et les conditions de vie du 5e le plus pauvre avant d'améliorer l'existence du 5e le plus riche. C'est ce dernier point qui a manqué dans la loi adoptée, déplore-t-elle. C'est ce qui explique pourquoi il y a encore en ce moment des écarts de richesse aussi grands. Derrière de petites lunettes à monture dorée, le regard de Viviane Labrie n'a rien perdu de son acuité à disséquer la société et les mécanismes qui reproduisent les inégalités. Logiquement, pour avancer vers une société sans pauvreté, les protections sociales de base devraient couvrir les besoins de base et le salaire minimum à temps plein devrait garantir une vie exempte de pauvreté. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, le PIB réel au prix de base par industrie au Québec, une mesure de la richesse collective chère aux gouvernants, a presque doublé, passant de 231 milliards à 420 milliards en dollars courants. Malgré la loi, c'est le sommet de la pyramide sociale qui a profité le plus de cette prospérité, pendant qu'à la base, les plus démunis restaient englués dans la précarité. Il faut se poser la question, est-ce une société où c'est possible de monter l'échelle sociale sans jamais rencontrer de plafond qui va nous aider à sortir de la crise socio-environnementale actuelle? Ou est-ce une société qui considère la richesse autrement? J'ai demandé des centaines de fois, c'est quoi la richesse qui compte vraiment? Et c'est très rare que j'ai entendu parler d'argent. Refus du découragement. La loi adoptée en 2002 prévoyait d'élever la lutte contre les inégalités au rang d'impératif national et affichait l'objectif de tendre vers un Québec sans pauvreté. Évidemment, on peut tendre longtemps, fait valoir Viviane Labrie, en relevant le manque de volonté politique des différents gouvernements depuis 20 ans. Malgré cet état de fait, elle refuse de baisser les bras. La loi a bonifié les prestations d'aide sociale, braqué la lumière sur un dossier longtemps passé sous le radar et rendu l'État responsable en obligeant le gouvernement à préparer des plans d'action. L'élaboration du quatrième est d'ailleurs en cours. Il y a des choses qui prennent presque une vie à se réaliser, indique-t-elle avec philosophie. On s'est déjà dit que ça prendrait 10 ans faire du Québec un territoire sans pauvreté. 20 ans plus tard, il faudrait encore ajouter un autre 10 ans. Mais en même temps, c'est peut-être ça, la vitesse de l'humanité. Au moins, si ce rêve peut continuer de fleurir, c'est peut-être ça le plus important. C'était « L'Assemblée nationale rend hommage à Viviane Labrie, pionnière de la lutte contre la pauvreté », un texte de Sébastien Tanguay, paru le 13 décembre 2023 dans Le Devoir.